Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Bob Moran contre tout chacal, d'aventurier contre tout guerrier. Nous nous retrouvons pour notre troisième émission sur les romans de l'écrivain belge Henri Verne et son héros Bob Moran. Et nous retrouvons Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons aborder le roman L'ombre jaune d'Henri Verne. Mais avant d'entendre les lectures des extraits de textes choisis par Françoise, nous retrouvons, comme la semaine dernière, l'auteur lui-même, Henri Verne, qui répond à nos questions. Henri Verne, en 1953, vous êtes entré aux éditions Marabout.
Oui, je vais vous expliquer. Au fil des mois de retour en Belgique, là, je me passionne de plus en plus pour l'écriture. Le roman d'aventure m'attire. Jean-Jacques Schlesen, éditeur belge, réfléchit à une nouvelle collection de romans d'aventure pour les jeunes. Je le rencontre en 1953 grâce à un de mes amis zoologistes, Bernard E. Velmans, qui avait décliné l'offre de tenter de rédiger des histoires préférant écrire des ouvrages scientifiques. Cet éditeur évoque la possibilité d'un héros récurrent. Je lui trace rapidement des grandes lignes. Navigateur français, ancien de RAF. À cette époque, il y a eu un fait marquant, l'ascension de l'Everest. Pour tester mes capacités de rédacteur et la vitesse de mes réactions, il me demande de lui écrire le plus rapidement possible un livre évoquant cet exploit. Alors, je ne connaissais rien sur l'alpinisme. D'ailleurs, j'ai le vertige. Je vais chercher à la Bibliothèque royale des bouquins sur l'Everest. Je consulte tous les journaux évoquant la conquête de l'Everest. Je compile tout ça et 3 semaines après, le bouquin est prêt. Mon premier titre paru chez Marabout Junior, la maison d'édition créée en 1949.
Et puis, Bob Moran est arrivé.
Alors, sûrement, je l'ai signé sous le pseudonyme de Vernès, avec un accent grave. Sur la couverture de l'ouvrage, c'était en majuscule et l'accent avait sauté. Quant à Henri, c'est mon deuxième prénom. Je voulais garder mon vrai nom, de Wisme, pour des romans plus littéraires que j'espérais publier en parallèle. Pour la littérature alimentaire populaire, j'avais pris Vernès. Sans me douter que le succès de Bob Moran me submergerait à ce point. Alors je consulte un article paru dans le National Geography Magazine où il était question d'une vallée perdue au fin fond de la Nouvelle-Guinée où vivent les Papous à l'écart de toute forme de civilisation moderne. Sur ce canevas, j'invente la vallée infernale qui paraît en librairie le 16 décembre 1953. J'ai placé mon personnage, pilote de chasse, brun, yeux gris, 1m85, 33 ans. Alors, je l'ai placé dans cette aventure, c'était Bob Moran.
Oui, alors, comment est né le personnage de Bob Moran?
Il faut que je vous précise que Moran est le nom d'un guerrier Maasai qui a tué son premier lion. Ce nom permettait de faire référence dès le départ à l'aventure et à l'exotisme. J'en ai fait une sorte de héros d'aventure pur dans la jungle, même si par la suite il s'est orienté vers le policier, l'espionnage, la science-fiction, le fantastique. J'ai choisi Robert pour son prénom parce que le diminutif en était Bob, qui sonnait bien américain. C'était la période de série noire chez Gallimard et tout ce qui était américain était très apprécié. J'ai des points communs avec lui. Hein. Et il aime le jazz, les voyages, les antiquités, la peinture, comme moi. Sa philosophie générale est également la mienne, notamment dans tout ce qui concerne l'écologie. Écologiste de la première heure, à une époque où ça n'était pas du tout à la mode. Hein. Si j'envoie Bob Moran en Amazonie, c'est pour parler de la destruction, malheureusement, de cette partie du monde.
Et le succès est arrivé tout de suite.
Ah, succès immédiat. Succès immédiat par le bouche à oreille. Les éditions Marabout misent sur un succès durable. C'est pourquoi le deuxième volume, La galère engloutie, paraît dès mars 1954. Rapidité et ampleur de la popularité de mon héros. Des foules se ruent à l'assaut de la librairie Gibert et du bazar de l'Hôtel de Ville à Paris. À Montréal même, la police montée doit intervenir pour calmer la foule, voyez. Au début, j'avais un contrat par volume. Dès le quatrième, je donne l'exclusivité du personnage aux éditions et avec M. Schellens, nous décidons d'en faire un tous les deux mois. Alors j'ai tout de suite compris que le succès de Bob Moran passait par une apparition régulière de nouveaux titres. Parce que de nouvelles aventures étaient attendues par le public et parce qu'il ne fallait pas qu'on perde le souvenir de mon héros. Mon éditeur a publié d'autres héros, hein, mais j'ai amendé 10 fois plus. Des célébrités m'ont dit avoir lu les aventures de Bob Moran, hein, Bernard Henri Lévy, Christophe Gans, hein, et même des ministres français, tels que Claude Allègre. Il est vrai que la plupart ont connu Bob Moran en culotte courte.
Et Bill Ballantyne est arrivé.
J'ai eu des périodes de lassitude. Hein. Je me mettais à ma table de travail en me forçant. Il se produisait une espèce de miracle. Les mots et le plaisir revenaient vite. Donc j'enrichis ma galerie de personnages avec Bill Ballantyne. Il est important comme pivot de l'action parce qu'il est comme l'autre facette de Bob Moran. Il est surtout là pour les dialogues. Si Bob Moran agit seul, il n'y a jamais de conversation. Donc les dialogues aèrent un texte, lui donnent de la vie. Et puis cela permet certaines réflexions amusantes. Ce personnage s'est imposé très rapidement. Il forme avec Bob Moran un duo classique de tous les romans et des films d'aventure. Hein. Bon, prenez Laurel et Hardy, Jerry Lewis et Dean Martin. Ouais. Alors je lui ai donné le nom d'un écrivain qui s'appelait Ballantyne avec un Y. Lui, il était auteur de Chasseurs de gorilles. On a dit que je l'avais appelé comme cela, en référence à une marque de whisky. Ben c'est faux, hein. C'est un colosse de double mètre, plus de 100 kilos, et peut-être addict aux alcools forts, hein, tels que le whisky. Ben, bien normal, il est écossais. Mais il est toujours très impressionné par Bob Moran. Il éprouve pour lui un grand respect. Il vous voit Bob Moran pour deux raisons. L'une est humaine, l'autre est linguistique. La première, comme je vous l'ai dit, il éprouve un grand respect pour Bob. Il ne parvient pas à franchir le cap du tutoiement. La seconde est que dans la langue anglaise, le tutoiement n'existe pas. Et puis, pour couronner le tout, je n'ai jamais tutoyé des amis de plus de 20 ans, hein, tels que Jean Ray.
Et puis, il y a eu d'autres personnages.
Bob Moran et Bill Ballantyne ont été deux personnages gentils. Mais les personnages importants dans mes romans sont les méchants. Avec eux, je touche l'inconscient du lecteur. Je crée Ming, un chinois mongol en référence à Ming Taizu, qui était le grand représentant de la dynastie impériale Ming. Vous voyez, je ne me suis pas trop cassé la tête non plus. Enfin, il correspond au vieux mythe du chinois fourbe et cruel, le vieux mythe du péril jaune. Il apparaît dans la couronne de Golgonde pour la première fois, avec lui tous les mystères de la Chine. Ce personnage s'est mis à vivre, à se transformer de roman en roman. Et je me suis amusé à le reprendre. Je lui ai donné le nom de, ou du moins le surnom, de l'ombre jaune. Et dès le départ, les ventes de titres avec lui ont été plus fortes que les autres. Alors, succès aidant, je l'ai fait voyager dans le temps, dans l'espace. Je l'ai fait mourir. Enfin, je l'ai fait ressusciter. Dès qu'on me parle de Bob Moran, on me cite l'ombre jaune présent dans, je crois, 35 de mes romans.
Merci Henri Verne. Excellente transition, car c'est précisément de l'ombre jaune dont nous allons parler aujourd'hui avec les lectures de Françoise. L'ombre jaune est le 35e roman de la série Bob Moran, publié en 1959 par les éditions Gérard et compagnie, dont la collection Marabout Junior, le numéro 150. Bob Moran recherche un mystérieux criminel surnommé l'ombre jaune. Tout commence par la découverte, par deux policiers, une nuit à Londres, sur un banc public. Un homme bizarre qui porte des curieuses inscriptions sur son front et un billet épinglé au revers de son smoking. À monsieur le commissionnaire de Scotland Yard, si dans 8 jours, la décision n'est pas prise de démanteler le centre de recherche atomique de Harwell, cet homme mourra. Signé L'Ombre Jaune. L'homme bizarre répète sans cesse sur un ton halluciné « L'ombre jaune est la vie, mais il est aussi la mort. Il peut sauver l'humanité, mais il peut aussi la détruire. » Plus tard, Bob Moran lui-même, à Londres pour y retrouver son ami Ballantyne, trouve une belle jeune femme, Tatiana Orloff, et il la sauve des griffes de maraudeurs qui voulaient lui dérober ses bijoux. Il rentre à son hôtel prendre un repos bien mérité. Voici le premier extrait du chapitre 2, lu par Françoise.
Commandant Moran ! Commandant Moran ! Des coups sourds accompagnaient ces appels qui, pour Bob, semblaient venir des profondeurs d'un gouffre noir insondable. Commandant Moran ! Commandant Moran ! Encore cette voix et ces coups issus de nulle part. Puis, Bob se réveilla soudain et regarda autour de lui dans la chambre vide et enténébrée, se demandant où il se trouvait et s'il n'avait pas été le jouet d'un rêve. Mais les appels reprirent, plus pressants. « Commandant Moran, commandant Moran, je vous en prie, ouvrez-moi, à l'aide, ouvrez-moi !» Cette fois, le Français se trouvait tout à fait éveillé. Il se souvint qu'il était à Londres, dans une chambre d'hôtel Montagu, et quelqu'un, là derrière la porte, l'appelait. Il jaillit des couvertures à l'instant précis où de nouveaux coups désespérés ébranlaient le battant, tandis que la voix, une voix d'homme, reprenait sur un ton de plus en plus faible. « Commandant Moran, je vous en prie, ouvrez-moi, ouvrez-moi !» Déjà Bob se précipitait vers l'entrée de la chambre, il fit de la lumière, tourna la clé dans la serrure et ouvrit la porte. Un corps roula vers lui. Il tenta de l'intercepter, mais sans y parvenir, et le visiteur nocturne dégringola la face contre le plancher, où il demeura immobile. Pendant un instant, Moran demeura debout, comme médusé. Il ne comprenait rien à ce qui se passait, ou plutôt, il comprenait trop bien que c'en était une fois encore fini de sa quiétude, que les ennuis recommençaient. Il avait débarqué à Londres 2 jours plus tôt, afin d'y rencontrer son vieil ami Bill Ballantyne, qui, le lendemain, devait arriver d'Écosse où il demeurait. Et voilà que, brusquement, sans crier gare, ou presque, cet inconnu, qui n'était plus peut-être qu'un cadavre, lui tombait sur les bras. Bob ne devait cependant pas continuer à se désespérer longtemps de ce mauvais sort qui l'accablait. Il se pencha sur le corps étendu et doucement le retourna sur le dos. Aussitôt, Bob sursauta, étonné. Ce visage qui venait d'apparaître, il le reconnaissait. C'était celui, vieilli peut-être, marqué par une vie rude et aventureuse de Jack Starr, un ancien compagnon d'armes. Bob avait perdu Starr de vue et tout ce qu'il avait appris sur son compte, c'était qu'il se trouvait en exterminant ou il se livrait à d'obscurs trafics sur lesquels il n'avait pu obtenir la moindre précision. À présent, par il ne savait quel hasard, Jack Starr se trouvait là, devant lui, mort en apparence. Un détail attira soudain l'attention de Moran. Sur le front de son ancien compagnon d'armes, des caractères kabbalistiques étaient tracés à l'aide d'une quelconque encre indélébile. « Qu'est-ce que cela veut donc dire ?» se demanda Bob. « Et où donc ai-je déjà vu ces signes ?» Il ne comprenait rien, certes, car il semblait n'appartenir à aucune langue connue. Pourtant, ils évoquaient en lui des souvenirs imprécis, mais certains. Durant un moment, il se concentra pour tenter de se rappeler, mais comme il n'y parvenait pas, il renonça bientôt, se contentant d'inspecter le corps de Jack Starr à la recherche d'une blessure. Il la découvrit aussitôt, au côté gauche de la poitrine. Elle avait, selon toute probabilité, été causée par un coup de poignard, lequel devait avoir manqué le cœur de bien peu. Elle avait saigné énormément, mais pour l'instant, la source de liquide vital semblait s'être tarie. De plus en plus inquiet, Moran tâta le pouls de Star. Il battait encore faiblement. Bob laissa retomber le bras du blessé et cela fit glisser le pan droit de la veste. Sur la chemise de Star, une inscription apparut, tracée grossièrement à l'aide d'un stylo à bille. « Ainsi périssent tous ceux qui tentent de se mettre au travers de ma route. » L'ombre jaune.
Bob Moran va aider le grand patron de Scotland Yard, le commissionnaire Sir Archibald Bayswater, à combattre l'ombre jaune qui a commis une série de méfaits et menace de mort plusieurs personnalités londoniennes. Voici un extrait du chapitre 4.
Bob avait finalement trouvé le sommeil, mais il y avait à peine quelques heures qu'il dormait quand une douleur lancinante au maxillaire inférieur le réveilla. Une vieille dent gâtée se rappelait ainsi à son bon souvenir. Encore à moitié endormi, il tendit le bras et attira à lui la petite trousse de pharmacie posée sur la table de nuit. Il en sortit deux cachets d'un analgésique puissant qu'il avala avec quelques larges gorgées d'eau. Presque aussitôt, par autosuggestion sans doute, il se sentit mieux. Dès mon retour à Paris, songea-t-il, il me faudra faire soigner cette maudite dent. Un bon plombage et tout sera dit. Soudain, il sursauta. Un plombage, murmura-t-il, un plombage. Est-ce que ce serait la solution ? Il demeura un instant immobile, dressé sur son séant, puis il fit encore à haute voix cette fois. Un plombage ! Et si j'avais mis le doigt sur la solution ? Mais ce serait peut-être trop demander à la chance. Puis tant pis. Il me faut tout tenter, même si mon intervention doit paraître ridicule. Décrochant le combiné de l'appareil téléphonique installé à son chevet, il demanda à la standardiste de l'hôtel de former à son intention le numéro 999 et presque aussitôt, Sir Archibald Bayswater parla. « C'est vous, commandant Moran ? Je ne croyais pas avoir de vos nouvelles aussi rapidement. » Une idée qui m'est venue comme ça, commissaire. Elle vous paraîtra peut-être ridicule, mais je ne veux courir aucun risque en me taisant. Tout doit être tenté pour sauver ces 5 malheureux. Vous voulez dire plutôt ces 4 malheureux, commandant Moran. Bob eut un haut-le-corps. Déjà, il avait peur de comprendre. 4, fit-il, mais est-ce que par hasard... John Herbie serait mort ? C'est bien ça ? Je viens de recevoir la nouvelle. Il est midi et demi, l'ombre jaune a tenu parole. Ce fut un peu comme si une douche glacée s'abattait sur Moran. Il serra le poing jusqu'à ce que ses ongles meurtrissent ses paumes. Trop tard, le silence de son correspondant parut inquiéter le chef de Yard. « Commandant Moran, dit-il. Commandant Moran, êtes-vous toujours là ?»« Je suis toujours là, répondit Bob. » Je croyais qu'on nous avait coupé. Excusez-moi, sœur. Vous venez de m'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça m'a surpris. Jusqu'au dernier moment, j'avais espéré que l'ombre bluffait. Hélas, il n'en est rien. Il s'interrompit durant un bref moment, puis il demanda « Comment Herbie est-il mort ?»« Empoisonné, répondit sans hésiter Bayswater. » Sans doute un poison végétal extrêmement subtil, dont on n'a encore pas découvert la nature précise ni la façon dont il a été administré. Un poison, fit Bob d'une voix rêveuse. C'est bien ce que je pensais. Ne vous étonnez pas de ce que je vais dire, commissaire, mais si nous voulons sauver les 4 survivants, il nous faut envisager toute possibilité, même si elle doit nous paraître absurde. Vous m'avez demandé ma collaboration et j'essaie de vous aider de mon mieux. Je vous écoute, commandant Moran. Voilà, fit Bob. Il faut sans retard s'assurer si Herbie et les quatre survivants n'ont pas une dent plombée récemment. Non. Ne m'interromps pas, commissaire. Je dis récemment, ou mieux, très récemment. Laissez-moi m'expliquer. Moran parla assez longuement, et quand il eut terminé, le commissionnaire ne répondait pas immédiatement, comme s'il pesait les dernières paroles de son correspondant. Naturellement, ce serait là une possibilité, finit-il par dire. Je vais avertir aussitôt le docteur Stillman, afin qu'il entreprenne ou fasse entreprendre les recherches nécessaires. Je vous ressonnerai dès que j'aurai une réponse.
Bob va rendre visite à Madame Moe, accompagnée de son ami Bill. Madame Moe, une de ses vieilles connaissances, une sorcière, et tous les deux vont essayer de récupérer le masque du Tibet. Madame Moe consent à leur révéler qui est l'ombre jaune, mais elle meurt avant de prononcer son nom, poignardée entre les omoplates. Ils repartent et trouvent leur voiture en panne, la pompe à essence massacrée à coups de marteau. Les dacoïtes sont à leur trousse de redoutables as du couteau. Voici un extrait du chapitre 6.
Ils s'étaient mis à courir à travers les terrains vagues encombrés de matériaux de toutes sortes. Véritable dépotoir, pendant des années, les services du chemin de fer avaient entassé le matériel périmé. Cimetières de locomotives et de wagons frappés à mort, de tronçons de rails, de chaudières éventrées, de tuyauteries tordues et trouées, de palans bancaux, de grues rouillées faisant songer à des squelettes géants et incongrus, squelettes de gargouilles, de tarasques, de dragons figés sur l'immensité grise de la nuit. Bob et Ballantyne couraient avec l'énergie du désespoir. Moran surtout. Car il connaissait les dacoïtes et il savait n'avoir aucune pitié à attendre d'eux. Des êtres n'ayant plus rien d'humain, des robots de chair animés par le seul désir de tuer. Et, en face de ces monstres et de leurs couteaux, le Français et son compagnon n'avaient que leurs poings pour toutes armes. Derrière eux, les fuyards entendaient les pas pressés de leurs ennemis lancés à leur poursuite. « Il gagne sur nous !» fit remarquer Ballantyne, qui visiblement s'essoufflait, handicapé par son poids. L'endroit atteint par Moran et Bill se révélait moins encombré, les vieilles ferrailles se faisant plus rares. Devant eux, passé une large zone dénudée, on apercevait la zone plombée des marécages où la lumière indirecte de la lune mettait des reflets de marcassite. Sur la gauche, une ligne de lumière indiquait la proximité de la rivière Léa. « Nous allons faire mine de nous diriger vers le marais, » dit Bob. « Puis nous nous cacherons et pendant que les dacoïques chercheront à nous repérer, nous filerons en direction de la rivière. » Ils coururent encore sur une centaine de mètres, puis comme ils arrivaient à la hauteur d'une haute pile de traverses de bois, Moran dit encore « Cachons-nous ici. » En hâte, ils contournèrent la pile de traverses et s'accouprirent derrière. Sous ses pieds, Moran sentit rouler de petits corps durs. Il tâta de la main et comprit aussitôt que Ballantyne et lui se trouvaient sur un amas de gros écrous rouillés et abandonnés là, depuis quelques années sans doute. « Bourrons nos poches de ces écrous !» souffla Bob à l'adresse de son compagnon. « Nous pourrions en avoir besoin avant longtemps. » Mais déjà, les dacoïtes étaient parvenus à leur hauteur. Ils ne s'arrêtèrent cependant pas et ils disparurent au-delà des derniers amoncellements de ferraille. « Ils pensent que nous nous sommes dirigés vers les marais, » murmura encore Moran. « Quand ils ne nous apercevront pas, ils reviendront sur leurs pas. Faisons une ample provision de vieux écrous et filons. » À pleine poignée, ils remplirent les poches de leurs vestes. Ensuite, s'efforçant de faire le moins de bruit possible, ils reprirent leur course, mais cette fois en direction de la rivière. L'avantage que le subterfuge de Morav venait de leur faire gagner devait être de courte durée. Bill, qui s'était retourné, ne tarda pas à faire la constatation suivante. « Ils ont retrouvé notre piste, commandant. Les voilà. De derrière un groupe de nuages, la lune était apparue et, à sa clarté, Morane, en se retournant à son tour, put apercevoir les silhouettes de ces six dacoïtes lancés à leurs trousses. « Plus vite, jeta Bob. Nous devons avoir atteint la rivière avant qu'il nous ait rejoint, sinon... »
Il découvre la cachette de l'ombre jaune, qui n'est autre que M. Ming, un sinistre personnage que Bob connaît déjà depuis la couronne de Golgonde. Et Jack Starr, pris par un M. Ming et qui se trouve en danger de mort. Mais Bob Moran parvient à le délivrer. Il se trouve coincé dans un conduit souterrain et parvient à s'en extraire et à se sauver. Laissant ses compagnons, Bob va faire diversion en tentant de passer sous une grille d'égout pour rejoindre la Tamise. Il se retrouve sur les docks, mais n'est pas encore sauvé, car l'ombre jaune est toujours à ses trousses. Voici un extrait du chapitre 10.
Il y eut un crissement strident de frein, mais Morane s'était déjà jeté de côté, contre la muraille. L'énorme limousine noire, une Rolls, s'était arrêtée à sa hauteur. La portière s'ouvrit et une voix que Morane connaissait, une voix de femme, murmura. « Vite, commandant Morane, montez vite !» Il obéit et se tourna vers Tanya Orloff, dont le visage ambré brillait doucement dans la pénombre. La jeune métisse ne lui laissa cependant pas le temps de s'étonner. « Couchez-vous sur le plancher, commanda-t-elle, vite, il y va de votre vie !» Une fois encore, il obéit, quand, plié en chien de fusil, se faisant le plus petit possible à cause de l'exiguïté de la place dont il disposait, il se fut glissé sous le tableau de bord. Il sentit que l'on jetait un manteau sur lui. L'auto s'était remise à rouler doucement, mais bientôt, elle s'arrêta à nouveau. Bob entendit Tiana Orloff demander à quelqu'un, sans doute par la vitre baissée, « L'avez-vous retrouvé ?» Une voix d'homme, d'un Indien sans doute, ou d'un Birman, répondit. « Pas encore, Ben Saïd. Nous avons failli le rejoindre, mais il a réussi à nous échapper. Ce chien est très habile. »« Continuez à chercher, dit encore Tiana, et songez à la récompense. » La voiture démarra pour rouler de plus en plus vite. « Surtout, dit la jeune fille à voix basse, à l'adresse de Morane, ne bougez pas avant que je vous le dise. Tant que nous n'aurons pas quitté ce quartier, votre existence sera menacée. Vous pouvez relever, commandant Morane. Tout danger est écarté maintenant. » Bob rejeta le manteau sous lequel il commençait à étouffer et se redressa. Il se tourna aussitôt vers Miss Orloff, qui lui présentait seulement son fin profil, taillé, semblait-il, par un orfèvre. « Ah ça !» interrogea Morane. « Que signifie ?» Tanya ne tourna pas la tête et ses lèvres bougèrent à peine quand elle dit très simplement « Je suis la nièce de Monsieur Ming, commandant Morane. » Bob sursauta, le souffle coupé comme si l'on venait de le frapper violemment en pleine poitrine. « La nièce de Monsieur Ming, » fit-il en écho. Beaucoup de choses s'éclairaient pour lui. Il connaissait à présent l'identité de ce mystérieux informateur qui, lorsque, en compagnie de Bill, il sortit de l'antre de feu Madame Mo, lui avait murmuré l'adresse de Phalanx Street. Il allait demander de nouvelles explications. Mais la jeune femme prévint son désir. « Mon père était russe et ma mère chinoise. » Ma mère était la sœur de Ming et quand mon père mourut, ce fut Ming qui prit soin de nous. Ses bontés furent sans égales. Il nous combla de richesses et me permit de faire mes études ici, en Angleterre, dans les plus grandes écoles. Mon oncle est colossalement riche et ma mère et moi menions un train de princesse. Lorsque maman mourut, elle me fit jurer de toujours témoigner une reconnaissance aveugle à mon oncle, auquel elle me confia. Voilà pourquoi je le suivis dans la voie qui s'était tracée, me rendant sa complice. Mais à présent, je suis à bout. Les crimes de l'ombre jaune me font horreur. Voilà pourquoi je vous ai porté secours. La nuit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, interrogea Morane, vous me suiviez ? Oui. Ming avait appris votre arrivée à Londres. Il vous connaissait et savait que vous pouviez vous révéler un adversaire redoutable. Comme il ignorait les raisons de votre présence en Angleterre, il me chargea de vous surveiller. Malheureusement ou heureusement, le hasard fit que nous liâmes connaissance dans les circonstances que vous savez. Est-ce vous également qui, cette nuit, à la maison de Madame Maud, m'avez soufflé l'adresse de la maison où Jacques Starr se trouvait enfermé ? C'est moi. Continuant à vous suivre sur les ordres de mon oncle, je vous avais filé jusqu'à Powell Street. Je savais Jack Starr en danger, car il constituait une menace pour Ming, et je voulais éviter qu'un nouveau crime soit commis. Voilà pourquoi, à votre sortie de la maison de Madame Mauge, je vous ai donné, sans me découvrir, l'adresse de Phalanx Street. Et les Dacoïdes, ils étaient avec vous ? Tout en continuant à regarder droit devant elle, Tanya Orloff secoua la tête. « Non, expliqua-t-elle. Madame Maud était une créature de vigne, mais celui-ci se méfiait d'elle, car il la savait faible, craintive. Et il avait donc chargé une équipe de ces maudits dacoïdes de la surveiller nuit et jour. C'est à ces dacoïdes que vous eûtes affaire. Et comment se fait-il que, voilà quelques minutes à peine, vous vous soyez à nouveau trouvé sur mon chemin, Miss Orloff ? Est-ce seulement un bienheureux hasard ? Pas tout à fait. Je vous avais suivi à Phalanx Street pour connaître la suite des événements et vous prêter main forte en cas de besoin. J'ai rencontré les hommes qui vous poursuivaient et ils m'ont appris votre fuite et celle de vos compagnons. Le lieutenant de Ming, qui commandait ses hommes, a fait courir le mot d'ordre à travers tout le quartier des docks, de vous traquer. Faisant mine de surveiller les opérations, j'ai donc erré moi aussi dans ce quartier, espérant vous rencontrer avant qu'il ne soit trop tard. Et vous m'avez retrouvé juste à temps, fit Bob d'une voix joyeuse. Une fois je vous ai sauvé et vous venez de me rendre l'appareil. « Nous sommes donc quittes. J'aimerais cependant vous poser encore quelques questions. »
Bob Moran et Bill Ballantyne finissent par retrouver Ming et Bill lui tire 2 balles en pleine poitrine. Avant de s'écrouler, Ming fait tout exploser. Les deux amis en réchappent de justesse, satisfaits d'avoir éliminé le sinistre Ming. Mais ce monstre est-il vraiment mort ? Le dernier paragraphe du roman laisse planer le doute.
Bien sûr, Monsieur Ming, je recommence, bien sûr, Monsieur Ming était mort. Bob ne pouvait plus en douter. Si les balles de Ballantyne ne l'avaient pas tué sur le coup, il était maintenant enseveli sous des dizaines de milliers de tonnes de roc. Pourtant, Morane se posait une dernière question. Un homme pourra-t-il jamais tuer Satan ? Puisque Bill avait tué l'ombre jaune, il était donc cet homme-là, l'homme qui a tué Satan.
Merci Françoise pour ces lectures. Merci Philippe d'avoir fait revivre Henri Verne. Et à la prochaine émission. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour, l'exactitude et la vertu des rois. Elle est d'Henri Verne, dans Bob Moran, le tome 7, Les yeux du brouillard. C'est une bande dessinée. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, mon téléphone est le 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.